Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien dans Info Club Sandwich, votre quotidienne d'actualité locale et associative. Aujourd'hui, je suis accompagné de Lisa. Comment ça va, Lisa ?
Ça va et toi, Rémi ?
Ça va au top. Alors aujourd'hui, on va aborder pas mal de choses. On va notamment faire un gros point sur la journée du patrimoine, enfin sur les journées du patrimoine qui arrivent ce week-end. On va vous parler aussi du salon de l'autisme qui aura lieu ce week-end. Il y a énormément de choses ce week-end. Encore une fois, je le répète, on va aussi écouter l'interview de Hubert Félix Biolay, réalisé par Thomas Roland qui est un des bénévoles de Radio Campus Amiens et qui est allé l'interroger au sujet de son dernier documentaire qui s'appelle Les gars de Calouin. Vous allez découvrir ça tout de suite, mais avant je voulais vous parler d'un artiste de l'Oise qui s'appelle Shepper, un artiste de l'Oise certes, mais qui collabore avec de nombreux artistes amiennois. Une de ses premières apparitions dans notre chère et tendre ville est une collaboration avec Zomat pour le morceau Dans le fond il y a déjà quelques années. C'est un morceau qui avait pas mal buzzé à l'époque et qui avait fait plusieurs milliers de streams sur YouTube. Il a travaillé aussi récemment avec le graphiste Yulen, qui est un graphiste amiennois qu'on a vu bosser avec à peu près tous les artistes hip-hop de la ville. Shepper a récemment sorti son premier EP intitulé Say Less. Il semble revenir avec un nouveau projet. En tout cas, il a sorti un single intitulé N, accompagné d'un clip qui est disponible sur YouTube et aussi en teaser sur Instagram. On s'écoute tout de suite N de Shepper.
Hey. Cette meuf me paraît un peu trop déter, je suis pas sûr qu'elle connaisse le vrai rôle. Le blême pro c'est qu'elle ne connaît que chez Père. J'ai pas le temps de la calculer pendant l'apéro. Je suis faussement du peuple comme ils figurent. Non j'écouterai jamais leur pipo. S'ils prennent les mêmes chemins qu'on a pris dans nos galères, qu'ils sachent qu'on a truqué les panneaux. Bientôt sur le 4 anneaux. Le benzo, tes phases m'appartiennent. Chez Père Eke et Cyrano. T'es pâle à l'arrivée d'un hop sous d'un copse. C'est ça la vie d'un Tommy Bluff. Reviens quand t'auras fait tes preuves. Là t'as trop tapé dans ma Smirnoff. À partir de là, changement d'ambiance. Tu kifferas, t'auras peu de chance si tu tapes ça. Quelle ignorance, qui peut suivre quand il est dans les ronces. Donc tous ces rats, je les jette dans les ronces. Je ne tolère pas que tu te défonces. Surtout si t'as pas ma conce. Tu t'es pris pour un jeune d'arc. Mais tes rôles ne sont pas d'accord. Donc prie plutôt pour tes gars camés. Sinon tu les verras proche de la mort. Bah ouais, mal le gueux, c'est des gueux, t'as préféré parler pour ces gueux, t'es trop bavard. Sache que tu finiras dans le feu si tu fermes les yeux sur tout ce que tu ne veux pas voir. Papa m'a appris à rester silencieux, c'est le plus grand des mépris. D'après mes vieux et ma regarde pas ce que je fais, je suis teigneux. Mais d'après tes croyances, tu me guettes des cieux, bon qu'à gratter des phases. Je sais pas faire mieux, demande un peu, ni c'est sûr qu'on t'a déjà carotté. Tu gesticules, tu bouges trop les bras, va, tu parais hargneux. Nous on va même pas bouger, tu te feras arroser parce que tu fais trop le bourré. Par des gars que tu ne veux pas rencontrer. J'étais tigeant, mais s'il t'est OP, va les tester, on en parlera après. Rien n'est sûr que t'en sortes indemne. Je reste au chaud pour éviter de prendre ta peine. Mais la haine, tu vois pas où ça t'emmène. Elle émane de toi, on la sent même dans ton haleine. Mais la haine, tu vois pas où ça t'emmène. Pour toi, il y aura pas d'amen.
C'était N de Shepper. On enchaîne avec l'interview de Olivier Félix Biolay.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de documentaire. Nous allons parler du Gars des Calouins, qui est le quatrième documentaire de Olivier Félix Biolay. Le film relate le parcours de Désiré Le Fauconnier. Désiré Le Fauconnier est né à Port-Bail en 1926 et il rejoint la 2e DB en 1944, alors qu'il est en route pour l'Angleterre pour une formation de parachutiste. À travers son témoignage entrecoupé d'interviews et d'images d'archives, le Gars des Calouins croise deux destins hors du commun, celui de Désiré Le Fauconnier et celui de Philippe Leclerc de Haute Cloque. Olivier Félix Biolay, le réalisateur, aborde un sujet a priori grave avec une certaine légèreté et en évitant tout misérabilisme. Le film s'avère rythmé et adopte une certaine pédagogie et s'avère très abordable pour tous les publics. Donc, Le Gars des Calouins est un documentaire de 46 minutes. Et pour évoquer ce documentaire, je suis avec Olivier Félix Biolay, son scénariste et réalisateur. Olivier Félix Biolay, bonjour.
Bonjour Thomas.
Olivier Félix Biolay, vous avez d'abord une formation de juriste. Alors, comment passe-t-on de juriste à réalisateur de documentaire ?
Alors, effectivement, j'ai un parcours de juriste parce que j'ai fait une fac de droit, j'ai un master en droit que j'ai eu à l'UPJV. Ensuite, j'ai fait un master en organisation du travail toujours à l'UPJV, donc j'ai commencé à travailler dans le droit. Et après, j'ai eu mon entreprise dans le conseil d'organisation du travail. Et en 2015, j'ai eu envie d'apprendre à écrire des scénarios pour le cinéma. Je me suis renseigné sur les formations qui existaient et j'ai vu deux formations. Il y en avait une à Paris 8 et une à Paris 1. J'ai passé les épreuves et j'ai été accepté à la Sorbonne à Paris 1 pour un master 2 en cinéma. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre à écrire des scénarios. Et à la sortie de mon master, qui était dont le mémoire, l'objet du mémoire, c'était d'écrire un court-métrage, j'ai tourné ce court-métrage, qui était un court-métrage de fiction, une romance, qui s'appelle « L'air d'un oubli ». Et quand j'ai réalisé ce film, bah une fois qu'on en a réalisé un, on a envie d'en réaliser un deuxième. Et voilà comment l'aventure est partie.
Vous avez réalisé 6 films, dont 2 courts-métrages de fiction. Et vous avez fait le chemin un peu inverse. D'habitude, on commence par le documentaire, puis on vient à la fiction. Mais vous avez fait le chemin inverse. Vous avez commencé par la fiction pour arriver au documentaire. Comment ça se fait ?
Alors, en fait, l'anecdote, c'est que je tourne « L'air d'un oubli », mon premier film de fiction, avec notamment Marina Vladi, en comédienne. Et je ramène Marina Vladi chez elle après le tournage. Et en voiture, on discute et je lui parle de recherches que j'ai faites depuis quelques temps. Quand j'étais à la Sorbonne, j'avais 17 heures de cours par semaine. J'avais dirigé une entreprise, je travaillais à peu près 60 heures par semaine. Donc, j'avais un peu de temps de libre dans mon organisation de travail. Et j'avais commencé à faire des recherches sur un de mes cousins qui avait été déporté pendant la guerre, déporté NN. Et donc, c'est ce que je raconte à Marina en voiture. Et elle me dit, écoute, c'est formidable cette histoire, fais-en quelque chose. Soit tu écris un bouquin, soit tu fais un film. Et c'est comme ça que j'ai regardé ce qui avait été fait sur la déportation NN. J'ai trouvé qu'il n'y avait aucun film, puisque le film d'Alain René, Nuit et brouillard, donc Nartoun Nebel, concerne la déportation en général et pas le cas particulier des NN qui sont des prisonniers politiques. Et c'est comme ça qu'est née cette aventure de faire un premier documentaire. Et aujourd'hui, pour moi, c'est indispensable. Je ne pourrais pas ne pas faire de documentaire.
Et vos documentaires, si je ne me trompe pas, tournent tous autour de la Seconde Guerre mondiale.
Ouais, parce que c'est ce qu'on prend. Alors, c'est assez basique de dire ça comme ça. Enfin, j'ai écrit des documentaires sur la vie de l'entreprise, j'ai écrit des documentaires sur d'autres sujets, mais c'est des sujets qui n'ont pas été retenus par les chaînes. Et systématiquement, quand on prend un film, on me dit, voilà, c'est un film sur la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas uniquement ce que j'écris.
Le gars des Calouins s'attache donc à dresser le portrait de Désiré Le Fauconnier, hein, qui a un parcours bien particulier durant la Seconde Guerre mondiale. Et comment en êtes-vous arrivé à rencontrer Désiré Le Fauconnier et à vouloir faire un film sur lui ?
Alors, Désiré Le Fauconnier, en fait, c'est le voisin de mes parents dans l'Oise, dans un village qui s'appelle Choisy-au-Bac. Donc, je le connais, moi, depuis l'enfance. Et ce monsieur, je lui avais demandé, lorsque j'avais tourné mon premier documentaire « Ces traces qui restent » en 2017, j'avais demandé à Désiré s'il acceptait d'être le porte-drapeau de l'association du souvenir des NN, puisqu'il n'y avait plus de porte-drapeau à l'époque. Et il a accepté. Donc, il avait 91 ans, il ne sortait plus de chez lui, mais il est venu donc à la cérémonie qu'on avait faite pour le tournage au monument aux morts de Choisy-au-Bac, et il a accepté d'être le porte-drapeau. En 2021, je fêtais Noël chez mes parents, et donc c'est le voisin de mes parents, et je suis allé le voir, je suis allé lui rendre visite. On a pris le café ensemble, on a parlé d'actualité, et là, il m'a dit quelque chose qui m'a marqué, m'a regardé droit dans les yeux. C'est un monsieur qui a 95 ans à l'époque, et on parle de l'actualité, notamment des tensions qui commencent, puisqu'on est en décembre 2021, entre la Russie et l'Ukraine. Et là, il me dit droit dans les yeux, c'est pas possible que ça recommence. Là, il s'est mis à parler de sa guerre à lui, à ce moment-là. Et donc, son engagement au sein de la 2e DB, quand il avait 17 ans. Alors, il m'a tout mis un peu dans le désordre. Il m'a mis la libération de Paris. Après, il m'a parlé de la libération du Nid d'Aigle. Il m'a parlé de son enrôlement dans la 2e DB. Et il en est arrivé un moment à parler de son arrivée à Dachau. Et là, il est devenu beaucoup plus sombre. Et lui, qui était sourd, et d'ailleurs, on en rigolait, parce qu'il me faisait répéter 2 fois, 3 fois, 4 fois les mêmes questions pour comprendre. Là, je lui ai posé 5 fois la même question et il ne m'a jamais répondu quand je lui ai dit « Mais qu'avez-vous ressenti à ce moment-là » Et son fils, qui était présent, que je connais bien, s'est penché vers moi et m'a dit « Ça, il ne te répondra pas. » Et quand je suis sorti de chez lui, que je suis rentré chez mes parents, donc il y a juste la rue à traverser, je me suis dit « C'est dingue quand même ce qu'il a vécu à 17 ans. Il faut que je l'enregistre. Voilà, il faut que je garde cette mémoire. » Et simplement venue l'idée au départ de conserver à titre d'archive, son témoignage. Voilà comment c'est arrivé.
Mmh. À partir de là, comment vous avez écrit le film, comment est venue l'idée de ce film particulier, notamment de croiser deux destins, et comment avez-vous adopté cette forme?
Alors, au départ, je tourne juste des images conservatoires, c'est-à-dire garder son témoignage face à une caméra. Donc, on s'organise à ce moment-là, j'imagine au départ, le tourner chez lui. Et finalement, on se dit, on a tourné dans la mairie de Choisy-au-Bac. Donc, il a accepté de sortir exceptionnellement de chez lui. Et quand j'ai dit que j'allais enregistrer son témoignage, à l'époque, je connaissais une association qui fait des reconstitutions de la Seconde Guerre mondiale. Et quand je leur dis, tiens, je vais enregistrer le témoignage d'un ancien de la 2e DB, j'ai des gens face à moi qui me disent, ah mais attends, il n'y a presque plus de témoins de la 2e DB, on pourra lui faire un petit hommage. Donc, je dis, bah, OK, si vous voulez. Donc, on me dit, on va venir avec une Jeep et puis deux, trois gars en uniforme. Voilà, ça sera sympa. Je dis, OK. Et de là, on est passé d'une Jeep à trois Jeeps, finalement à 10 blindés qui sont arrivés dans le village. Donc, il a fallu s'organiser avec la commune parce qu'il y avait 20 figurants et 10 blindés, dont un porte-char. Donc, ça, on ne passe pas comme ça des porte-chars n'importe où. Et on a tourné cette séquence non seulement des images que je voulais à titre conservateur désirer, mais en plus, quand il sort, à un moment donné, après une heure et demie d'interview, il sort sur le perron de la mairie et là, il voit tous ses véhicules, tous ces gens en uniforme de la 2e DB. Et là, pendant une demi-heure, il reste dehors, ce monsieur qui sortait plus du tout de chez lui, hein, je le rappelle, à l'époque. Et on a un moment extraordinaire, puisqu'on a un homme heureux. Et qui n'arrête pas de dire c'est formidable, merci, c'est formidable. Là, il commence à se passer déjà quelque chose dans ma tête où je me dis il y a peut-être mieux à faire que simplement recueillir son témoignage quand j'ai vu cet hommage qui lui était rendu dehors. Et rien n'arrivant sans doute jamais par hasard, quelques semaines après, j'allais au Fort d'Ivry, donc aux archives militaires, donc ministère des Armées, à l'ECPAD, et j'allais faire des recherches pour un autre film. Et là, je parle à ce moment-là, je dis, tiens, j'ai enregistré l'interview d'un ancien de la 2e DB, un des archivistes. Il me regarde, il se marre, il me dit, regarde à la table là-bas, tu vois le monsieur là qui est en train de travailler, c'est le spécialiste français de la 2e DB. Et donc, il m'a présenté à Alain Aymar. Et là, Alain, on a commencé à discuter, il a commencé à me montrer des photos, puis il m'a montré des bouts de films qu'il y avait aux archives. Et là, c'est là vraiment qu'est née l'idée du documentaire. Je me suis dit, mais c'est génial, quoi. Il y a plein de choses à raconter, à montrer. Et c'est comme ça que là, je me suis dit, allez, on y va, on fait un film.
Alors, le film est entrecoupé d'images d'archives. Avoir des images d'archives, c'est quand même assez compliqué, il me semble.
Alors, avoir des images d'archives, oui. Alors, il y a les archives, elles sont un peu réparties un peu partout. C'est-à-dire qu'on a des images en France avec le ministère des Armées. Donc là, en l'espèce, c'est le CPAD donc, qui est au Fort d'Ivry, qui a quand même beaucoup d'archives. Après, on a l'INA, et après, on a les archives américaines, on a les archives qui viennent anglaises, etc., etc. Donc moi, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps au ministère des Armées à regarder les archives. Grâce à Alain Aymar, on a été très efficace, puisque lui connaissait bien les images, et j'ai dû extraire une trentaine d'heures d'archives de le CPAD. Après, je suis allé sur le site du ministère, le site de Washington, donc des images américaines. Et là, c'est pareil, j'ai regardé beaucoup, beaucoup d'heures d'archives et j'ai fait une sélection entre les deux. Alors pourquoi? Parce que le CPAD, quand je leur ai parlé de mon projet, au départ, je pars sur une production, j'ai pas de production, j'ai pas d'argent, etc. Et ils me disent, écoutez, votre projet est formidable. Nous, ce qu'on vous propose, c'est un projet pédagogique pour que vous ayez un coût très réduit au niveau des images. Parce qu'il faut savoir que des images d'archives, à le CPAD, c'est 3 700 € la minute. Voilà. Donc, sachant qu'aujourd'hui, là, j'ai calculé dans mon film... j'ai 21 minutes d'archives du ministère des Armées. Il suffit de multiplier, on se rend compte du coût. Or là, avec le partenariat, ça me coûte nettement moins cher, puisque ça me coûte 220 € en tout et pour tout d'images d'archives. Voilà. Et les images américaines, elles sont libres de droit, celles que j'ai sélectionnées. Voilà comment j'ai eu des images d'archives. Et après, il y a eu des images de collectionneurs aussi, des photos qui m'ont été mises à disposition à titre gracieux, et des photos, bien évidemment, de Désiré et de sa famille.
Il y avait ce contrat avec le CPAD de faire quelque chose de plutôt pédagogique, et ce qui a influencé, j'imagine, la mise en scène, car le film est à la portée de tous, en fait. C'est, pour un film historique sur la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas cette tonalité sombre, grave, etc. Le film est plutôt léger, avec notamment la musique n'est pas plombante. Comment vous avez travaillé ça?
Alors, la première chose, effectivement, comme vous dites, c'est le fait de faire un film pédagogique, puisqu'à partir de ce moment-là, je me dis, on va faire un film pour les scolaires, en visant un public assez précis, même si on peut l'élargir, c'est le public de troisième. Donc, il faut que ça soit facilement regardable. Donc, au départ, on choisit un format, on se dit, on ne va pas choisir un format trop long, et il faut être didactique. Et la deuxième chose, c'est notre personnage, c'est Désiré. C'est-à-dire que cette légèreté, c'est ce monsieur. C'est-à-dire que c'est un monsieur, d'ailleurs, c'est la citation qui ouvre le film, « Depuis, je suis toujours un homme heureux, libre ». Voilà. Et Désiré, c'était un homme qui aimait bien plaisanter et qui parle, effectivement, quand il parle de la guerre, il y a des moments où il va être grave, parce que forcément, il ne peut pas en parler avec légèreté, quand ses copains meurent, etc. Mais quand il parle de manière générale de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, il en parle effectivement avec cette légèreté. Et j'ai eu un très beau témoignage en sortant de la projection, de la première projection qui a eu lieu vendredi dernier au Cinéma Majestic à Compiègne. C'est d'une petite fille de 12 ans qui, en sortant du film, a dit à sa mère « Maman, je ne savais pas aussi qu'on pouvait rire pendant la guerre ». Voilà. Et du coup, pour moi, c'est une réussite parce que je voulais qu'on ait cette légèreté. Alors, il y a quand même de la gravité dans le film, hein. C'est pas uniquement léger. Et la musique, effectivement, quand j'ai mes compositeurs qui m'accompagnent sur tous mes films, puisqu'ils ont fait tous mes films au préalable, je leur ai demandé de... Justement, je leur ai dit, attention, Désiré, c'est un homme... Je leur ai cité vraiment ce que j'ai dit tout à l'heure, la phrase de Désiré, « Depuis, je suis toujours un homme heureux et libre ». Voilà, et ça, c'était la ligne conductrice pour la composition de la musique.
Le film, au niveau des témoignages, bon, il n'y a pas que Désiré Le Fauconnier, il y a aussi d'autres personnes dont l'historien est spécialiste de la deuxième DB, mais aussi des descendants de Philippe Leclerc de Haute-Cloque.
Oui, on a effectivement Bénédicte Coste-Leclerc de Haute-Cloque, qui est la petite fille du général Leclerc, qui vient témoigner et apporter sa lecture à elle de l'histoire de son grand-père. Et donc, il faut savoir que le général Leclerc est un Samarien, puisqu'il est né et il a habité à Taï, l'Arbre à Mouche, qui est près des Rennes, donc c'est pas très loin d'Amiens. Et donc c'est une figure locale, et c'était important aussi qu'on aille tourner là-bas.
Et comment le film s'est... Au montage, le montage a été compliqué avec toutes ces heures d'archives, ces images. Et il y a aussi quelque chose qui est notable, que c'est la voix de Désiré jeune. Ça, c'est un parti pris de mise en scène particulier.
Ouais. Alors en fait, Désiré, quand je le filme, il a 95 ans, il ne sort plus de chez lui. C'est un monsieur qui fatigue vite. Donc je me dis, on va l'interviewer pendant une heure. L'interview a duré une heure et demie, mais on s'est dit à un moment donné, on voyait qu'il fatiguait vraiment, donc on a arrêté. Et de fait, il n'a pas pu raconter toute son histoire face à la caméra. Et il a écrit ses mémoires, il y a une vingtaine d'années, il avait écrit ses mémoires. Et donc je me disais, on a des trous dans l'histoire. Et au montage, quand on a commencé à penser, mais même à un moment donné, quand j'ai commencé à aller interviewer les autres personnes et quand on était sur le montage, je me suis dit, il va manquer vraiment des informations. Et c'est de là qu'est née l'idée de faire une voix off, mais pas une voix off neutre, mais une voix off qui soit lui à 17 ans et qui raconte son témoignage qu'il est en train de vivre. Voilà, comme ça permettait de faire le lien entre ce qu'il avait raconté face à la caméra et ce qui n'avait pas été raconté.
Donc Désiré le Fauconnier est donc le personnage principal de ce film. Et je crois qu'il y a, je suis sûr, il y a quand même un gros crève-cœur par rapport à ce personnage et au
oui.
film.
Oui, tout à fait. En fait, Désiré, quand je tourne les images, on était en février 2022. Donc l'idée de commencer à faire un film arrive à l'été 2022. Et de là, le temps de trouver quand même les moyens financiers de lancer ce projet qui est porté par mon association Les Trois Chaînes, mais il faut quand même un minimum de moyens, même si j'avais beaucoup de bénévoles avec moi, parce qu'il faut louer du matériel, il faut faire des déplacements, etc. etc. Donc on a commencé à avoir des collectivités qui nous ont accompagnés au niveau régional, au niveau départemental. Et de là, on a commencé à tourner. Après, faire la post-prod, c'est pareil, il faut louer des studios, il faut du monde. Donc ça a pris un peu de temps et on se pressait, parce que j'avais qu'une hantise, c'est que Désiré ne voit pas son film. Et ce qui était prévu, c'était, on a bien avancé sur la post-prod, et donc ce qui était prévu, c'était de lui présenter le film fin août, quand il serait terminé. Donc il l'attendait avec impatience, mais malheureusement, Désiré nous a quittés avant, puisqu'il est décédé le 31 juillet sans avoir vu le film. Un film dont il était très fier, dont il parlait beaucoup. Donc ça, c'est effectivement, c'est un vrai crève-cœur, comme vous dites, qu'il ne l'ait pas vu. Mais sa famille était présente, notamment quand on a fait la première projection. Et au courant octobre, on va tenir la promesse que Désiré avait fait à ses collègues de sa maison de retraite, puisqu'il a été passé 6 mois en maison de retraite avant de décéder. On va aller le présenter à ses amis de la maison de retraite en Bourgogne.
Un soir, ma mère me réveille et me dit « On entend des bruits de canon ». C'était les troupes à Rommel qui arrivaient sur Port-Bail. Enfin, ça remuait à Port-Bail, hein.
Français, enfin voici l'heure tant attendue.
Leclerc débarque le 1er août, mais quand il débarque, il est accueilli par personne. Les autorités américaines ne sont pas là. Et ça, évidemment, ça fait mauvais effet. Donc on refait le débarquement.
Il dit comme ça, mais viens avec nous.
C'est quand même pas si évident de se dire, je vois la division, deuxième division blindée qui a débarqué ici, je vais m'engager.
Il y avait une dame qui vendait des fromages. Elle m'a donné 2 camemberts. Et je suis parti avec mes 2 camemberts faire la guerre. J'ai triché, parce que j'avais pas 18 ans, j'avais 17 ans. Il me tombe un obus juste à côté de moi. J'ai été évacué.
Les hommes sont harassés de fatigue, parce que Leclerc... Les talons sans arrêt, foncer.
On avait tout juste le temps d'aller aux toilettes. C'était merveilleux. C'est incroyable. Des choses comme ça, ça vous arrive qu'une fois dans votre vie. Ah, c'est toute une histoire. C'est pour ça que je disais toujours, j'ai de quoi faire un film.
Le gars des Calouins, comment peut-on le voir?
Alors, le gars des Calouins va être projeté à la fois pour le public et pour les scolaires. Donc, on va pouvoir le voir parce qu'on commence à faire la programmation actuellement. Donc, il va y avoir des programmations. Il y a déjà des projections qui sont prévues. On va prochainement projeter au cinéma Le Rex à Abbeville. On va projeter aussi sur Compiègne. On va projeter aussi à Tourotte au mois de novembre. On va projeter, voilà. Il y a des projections aussi qui sont prévues en 2024, parce que j'ai déjà des projections qui sont prévues à Évreux au mois de janvier, des projections qui sont prévues sur les plages du débarquement à Utah Beach au mois d'août. Au mois de mai, il y aura aussi à Tahiti l'Arbre à Mouche, où il y a une projection qui est prévue. Et on va parcourir, l'idée c'est que j'aimerais faire le chemin de la 2e DB, ce qu'on appelle la voie de la 2e DB, c'est-à-dire de partir d'Utah Beach, aller jusqu'à Strasbourg. Voilà.
Après ce projet de gars des Calouins, quels sont vos autres projets, Olivier Philippe Bouillolet?
Alors actuellement, j'ai un autre documentaire qui est en préparation, c'est-à-dire qu'on a commencé pareil à tourner quelques images conservatoires, à nouveau un documentaire historique, à nouveau sur la Seconde Guerre mondiale. Ça s'appelle The Prosper Network, donc qui évoque en fait le plus grand réseau de résistance français qui a eu lieu, qui était le réseau Prosper, qui a été décimé à l'été 1943, et dont le chef Francis Sutil était un membre du SOE, donc des services secrets britanniques, et on mène l'enquête pour savoir si réellement ce réseau a été sacrifié ou non par les Anglais à l'été 43 pour faire croire à un débarquement. Voilà, donc c'est l'enquête qu'on mène sur ce film. Et à côté de ça, il y a un long métrage de fiction cette fois, toujours historique, qui va aborder lui l'après-guerre et notamment un grand procès qui est le procès de la Gestapo de l'avenue Foch qui a eu lieu en 1949. Et là actuellement, ça, je suis en phase d'écriture et d'ici 3 semaines, je présente la première version de scénario à mes producteurs.
Merci Olivier Philippe Biollet, merci.
Merci.
Puis, bonne route à ce gars des Calouins qui j'espère rencontrera son public.
Merci.
C'était l'interview de Olivier Félix Biollet, réalisé par Thomas Roland, un de nos bénévoles qui animait anciennement À l'écoute du cinéma, mais qui s'est arrêté cette année. L'interview évoquait le dernier documentaire du réalisateur qui s'appelle Les Gars de Calouin. On enchaîne avec les journées du patrimoine et du matrimoine. Qu'est-ce que tu as à nous proposer, Lisa, ce week-end ?
Eh bien écoute, la briqueterie organise du coup samedi une soirée matrimoine avec exposition, spectacle, projection de films et d'interludes musicales également. Donc c'est ouvert dès 19h pour tout le monde, tous les âges, à prix libre et avec une petite buvette sur place évidemment. Donc je vous invite à y aller, à y passer, à faire un petit tour à partir de 19h samedi. Moi je vais y passer, il se passe plein de belles choses, ça a l'air très prometteur et voilà.
N'hésitez pas du coup à vous rendre à la briqueterie si jamais vous souhaitez rencontrer Radio Campus Amiens et notamment Lisa. Qu'est-ce que tu as d'autre à nous proposer pour ces journées du patrimoine ? Je crois que tu as aussi un sujet un peu plus à l'extérieur d'Amiens du côté de Piquigny.
Alors du coup, oui, donc le 16 et le 17, il y a une visite des archives intercommunales qui est prévue à Piquigny pour la journée du patrimoine. C'est pareil, c'est une entrée libre. Le départ est toutes les heures à partir de 14h et le dernier départ est à 17h.
Aurais-tu autre chose à nous proposer ?
On a également un spectacle et une visite guidée chez Cabotan. Donc pour ceux qui ne savent pas, Cabotan, c'est le théâtre des marionnettes de Amiens, donc visite libre également le 16 et le 17, de l'âge d'or des marionnettes début 19e à l'inauguration du théâtre chez Cabotan dans les années 90, dans l'emblématique du quartier Saint-Leu du coup.
Alors est-ce que tu as une dernière chose à nous recommander ou c'est bon pour toi ?
C'est bon pour moi.
Super, ce week-end c'est les journées du patrimoine, il y a énormément de choses qui se passent sur Amiens, vous pouvez retrouver des programmes à peu près partout, toutes les institutions amiennoises quasiment font des événements, donc n'hésitez pas à sélectionner un petit peu vos lieux et vos événements. Je voulais aussi vous parler du salon de l'autisme, j'ai reçu un message de l'association Autisme Amiens ASF 80, ils m'ont demandé si je pouvais communiquer sur leur événement, j'ai évidemment accepté. Le samedi 16 septembre, la troisième édition du salon de l'autisme aura lieu à l'espace de Vailly de 8h45 à 18h. Au programme, il y aura des conférences, des ateliers, des dédicaces. Concrètement, si c'est un sujet qui vous parle ou si vous voulez vous sensibiliser à cette thématique et à toutes les thématiques qui tournent autour de ce sujet, n'hésitez pas à vous rendre donc à l'espace de Vailly de 8h45 à 18h ce samedi. C'est la fin d'Info Club Sandwich et on va se quitter avec un petit morceau. On va se quitter avec Sound of Violence de Other Life. A très vite, notamment à demain avec une super interview ou plutôt un entretien du groupe de jazz amiennois Verbe.
Make some room for the afterlife. Golden Gate, a happy wife. Nothing compares to the sound of a violence. Great destroyer, you plant the seed. living guilt and the loser's grief, but nothing compares to the sound of that violence. No, nothing compares to the sound of that. Sitting still, the getting's easy, so have your fill. Well, nothing compares to the sound of your violin. Ain't it funny how the years go by? Nothing changing long as we're alive, but nothing compares to the sound of our violin.